Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est cette notion d'élargir son regard, d'élargir sa vision, son regard sur le monde à travers différentes expériences, différents parcours de vie. Donc avec moi, Dola, donc toi tu es colombienne, mais tu as des origines, tu es typée, hein, comme tu disais, et tu nous parles aujourd'hui dans un français absolument parfait. Donc on va s'intéresser un peu à ton parcours, à ton histoire, et on va commencer par ça. Donc toi, enfant, parle-nous de ton enfance, et à quel moment tu as eu envie de quitter la Colombie, et comment ce départ s'est passé.
Déjà, toute ma gratitude pour ton émission. Regarde, d'ailleurs, ça touche mon cœur. Écoute, je suis colombienne d'origine amérindienne. J'habite en France depuis plus de 30 ans. Mon cœur est à moitié colombien, à moitié français, parce que je suis française par alliance. Et j'ai un garçon qui bientôt va avoir 19 ans. Et je vais régulièrement en Colombie. Je suis reliée aux communautés amérindiennes de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Mais quand tu parles donc de colombienne, amérindienne, pour moi la Colombie c'est en Amérique du Sud et oui. Les Amérindiens je les situe au nord.
Ah, donc au peuple racine plutôt, je dirais au peuple autochtone.
De Colombie alors.
De la Colombie, oui.
Parce que quand on pense à la Colombie, on parle où les Kogi sont très médiatisés, donc j'imagine qu'il y a différentes ethnies, différents peuples qui habitent
sûr.
La Colombie.
Bien sûr. En Colombie, il existait 375 communautés différentes à l'époque de la colonisation, de laquelle aujourd'hui il reste 75. Et on ne sait pas combien de communautés vont survivre à notre modernité. Oui, comme je te disais, je suis reliée au peuple de la Sierra Nevada de Santa Marta, dont les Kogi, avec lesquels j'étais formée spirituellement depuis plus de 30 ans. Mais je travaille aussi avec les autres communautés, comme la communauté Wiwa, la personne avec laquelle tu m'as rencontrée, et également les Arhuacos et les Kankwamo. Particulièrement pour moi en tant qu'enfant, j'ai grandi dans la zone colombo-vénézuélienne, dans laquelle il y a beaucoup de communautés aussi, plus près tu vois, de l'Orinoco, de l'Amazonie. Donc c'est la frontière colombo-vénézuélienne. Et en étant enfant dans cette région, bah, j'étais témoin de la difficulté d'être un Indien. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit en Colombie, comme dans la plupart de la Terre, les Amérindiens sont considérés comme des personnes de troisième catégorie. Je pense qu'un chien vit mieux en France qu'un Amérindien dans l'Amérique du Sud.
Mais ce que tu dis, c'est encore vrai aujourd'hui? Il y a encore ce clivage?
C'est encore vrai aujourd'hui. Il y a beaucoup de discrimination. Il y en a, les Amérindiens, ils sont dû vivre la colonisation et le saccage. Et le saccage, ça n'a jamais arrêté depuis que les Espagnols et les Américains maintenant ont été dans l'Amérique du Sud, dans les peuples indiens. Et le saccage ne s'est jamais arrêté. Tous les jours de la Colombie, il y a des pétroles, il y a des émeraudes, il y a des fruits, il y a des leurres, il y a des quantités de fleurs. Les deux mers sont exploitées. Il y en a des compagnies minières qui viennent et qui exploitent la terre. Donc en laissant les habitants, les propriétaires de cette terre dans la mendicité, dans l'alcoolisme. Ça a créé énormément de déséquilibre. Et oui, c'est aujourd'hui, cette réalité, elle est là. Et la bêtise est telle que pour insulter quelqu'un, ils disent « tu es un Indien ». Donc pour que tu puisses imaginer...
C'est quelque chose de péjoratif en fait, encore aujourd'hui.
C'est quelque chose de péjoratif, oui. Et donc c'est pour ces raisons que la résistance amérindienne, que ce soit en Colombie, au Chili, au Pérou, en Amazonie, est tellement importante parce que ces peuples vraiment ont énormément souffert, ont vécu la discrimination et ils sont là. Et ils sont aujourd'hui avec leur cœur ouvert pour donner des clés pour que l'humanité puisse rêver à nouveau sa voix, la voix spirituelle, la voix du cœur, la voix du partage, la voix de l'amour, de l'amour et le sacré de la vie, de l'importance de préserver toute la beauté qui existe sur cette terre.
Combien vous représentez aujourd'hui les peuples racines en Colombie? Est-ce que tu as une idée en termes de statistiques? Donc toi,
comme je t'ai dit, c'est de ces 370 communautés, il nous reste que 75. Par exemple, pour te parler des peuples Kogi et des tribus de la Sierra, qui c'est avec lesquelles je suis le plus relié actuellement, il reste 30 000 personnes. Et comme je t'ai dit, c'est très fragile, c'est un équilibre vraiment très fragile.
Ce qui est incroyable, c'est que dans ces grandes explorations, donc quand l'homme européen occidental est parti sur les mers pour aller explorer le monde, hein, donc là je crois que les États-Unis ou l'Amérique du Sud, c'est quoi? C'est 1492 il me semble, 1492, et quand on arrive dans un nouveau continent, on rencontre un peuple nouveau, avec une évolution différente, des croyances différentes, un système de pensée différent, et plutôt de se dire, waouh, c'est génial, vous avez évolué différemment, soyons complémentaires, essayons d'associer nos savoirs, nos idées, nos spiritualités. L'homme blanc a eu tendance, souvent au nom de la religion, à vouloir imposer, s'imposer dans sa propre condition, dans sa propre croyance. Pourquoi est-ce que l'homme est toujours là à vouloir lutter, cette lutte de pouvoir, plutôt que d'être dans une forme de complémentarité? C'est une chance que découvrir un pays, et plutôt que se dire, waouh, viens, on partage ce qu'on peut partager, ben on écrase.
Total. Tu l'as très bien dit. Je dirais qu'ils ont imposé une langue, une religion, mais en plus de saccage, ils ont maintenu ce peuple avec un grand mépris de la différence. Oui, je pense que c'est valable à cette époque, mais c'est valable de nos jours, parce que la relation au pouvoir, je pense que c'est la partie la plus compliquée pour un être humain. Déjà, nous, dans notre propre relation à notre pouvoir, et vous pouvez vous imaginer, quand il y en a des intérêts, des richesses, c'est encore plus complexe.
Donc toi, enfant, tu as compris ce racisme, tu as compris ce clivage entre les indigènes et les colons? Est-ce que c'est quelque chose que tu observais, petite fille? Tu as peut-être des souvenirs qui, pour toi, ont été marquants, où tu as souffert de cette différence et tu as souffert du racisme?
Oui. Écoute, j'étais témoin de la souffrance des peuples. Je t'ai dit, j'ai grandi dans des communautés amérindiennes de la plaine colombo-vénézuélienne. Et là, j'étais témoin de la discrimination et de la difficulté, parce que c'était des peuples nomades à lesquels on a assigné dans des réserves. Et donc, ça a créé beaucoup de racinements. Ils n'étaient pas habitués. Tu vois, c'était plutôt des personnes qui étaient nomades, et donc ils savaient où on pouvait trouver à manger, où on pouvait pêcher. Et tout à coup, on les assigne à des réserves. Et donc, ça a créé de l'alcoolisme, ça a créé de la mendicité, ça a créé la prostitution aussi pour les filles, pour les enfants. Enfants et femmes amérindiennes. Et en étant enfant, j'étais confrontée, je devais avoir 7 ans, j'étais avec ma sœur, elle devait avoir 3 ans. Et on a vu une femme amérindienne enceinte avec un bébé. Elle était totalement alcoolisée et elle est tombée par terre et son bébé est tombé comme un sac à pont de terre. Et on était là, pétrifiés avec ma sœur. On voyait cette dame dans l'impossibilité de se mettre debout et ce bébé qui pleurait. Donc, confrontée à la souffrance du bébé et à l'impuissance des pouvoirs et de ces personnes. Donc, on a pris avec ma sœur et le bébé et on l'a amené chez ma mère. Et donc, on a raconté à ma mère pour qu'on puisse venir aider cette personne. Et donc, c'est quelque chose qui a marqué pour toujours ma conscience. Je pense que si aujourd'hui je suis là, et je suis avec cet amour et ce respect envers, cette reconnaissance envers les communautés amérindiennes de la Terre, et plus particulièrement avec celles avec lesquelles je suis initiée spirituellement, c'est un lien, je pense, à ce qui s'est passé à ce moment-là. parce que j'ai dû être face à ces souffrances et impuissante face à en étant petite, je ne pouvais rien faire. Aujourd'hui, je peux humblement apporter ma contribution à ces communautés d'une façon, à niveau humain, à mon propre niveau. Et quand je peux faire des choses beaucoup plus grandes, bah, je les fais.
Donc tu as vu, toi, l'impact négatif de l'alcool sur les communautés ?
Oui, bien sûr. Mais l'impact négatif, c'est un lien, c'est un ravage qui est valable pour toutes les communautés, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans l'Amérique centrale, dans l'Amérique du Sud, et même en Australie, dans toutes les communautés dans lesquelles l'alcool arrive. C'est la façon qu'ils ont de noyer la douleur, en fait. C'est la façon qu'ils ont trouvé de pouvoir tenir bon face à la réalité à laquelle ils sont confrontés.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Toi qui vis maintenant en Europe, tu n'as pas l'impression que de plus en plus de jeunes ou de moins jeunes se tournent justement vers le langage des esprits de la nature, vers le langage de la terre? J'ai l'impression qu'on fait un peu une marche arrière. C'est comme si dans notre société développée, on était allé trop loin dans le monde matériel et on a envie de faire un peu un pas de côté et de se reconnecter à quelque chose de l'ordre de plus simple, au vivant finalement, à cette compréhension de la nature. Et des festivals comme celui-là, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont en quête justement des messages des peuples racines qui ont peut-être une forme de sagesse que des fois on idéalise, mais en tout cas une sagesse ou un lien avec l'environnement.
Oui, c'est très intéressant ta question. Si tu veux, de mon point de vue, et aussi un lien avec les différentes communautés, on dit qu'on a le grand esprit ou l'énergie universelle a donné au peuple racine la responsabilité de garder, d'être le gardien de la sagesse spirituelle. Et il a donné à l'homme blanc le rôle de protéger la matière. Et donc l'homme blanc, il s'est perdu dans ce lien avec la matière. Il a tellement amené l'expérience tellement loin qu'on est en train de créer un monde de plus en plus artificiel. Et si on continue comme ça, on va créer un monde gris et rempli de machines dans lesquelles la beauté de la terre, la beauté de la nature et la beauté de la vie va disparaître. Donc c'est pour cette raison que de plus en plus, tu vois l'émergence des peuples amérindiens qui sortent et qui transmettent leurs connaissances pour que vous puissiez vous rappeler que vous aussi, vous avez ce lien au tout, que tout est énergie, et que vous êtes les co-créateurs aussi de votre réalité. Et que dans ce sens-là, oui, au sommet, il y en a des âmes qui sont en train de se réveiller. La seule chose que je vois, la partie la plus difficile que je vois, c'est que vous puissiez transmuter votre ego. Que nous puissions transmuter, parce que j'en fais partie, je vis en Europe, donc je côtoie aussi à niveau votre système énergétique. Donc c'est tout un travail de tous les jours. Parce que c'est la relation au pouvoir, c'est notre relation au pouvoir qui pose problème. Car on ne se rend pas compte qu'il est de la plus haute importance que quand on a une belle relation, une relation équilibrée à notre pouvoir, tu as du pouvoir, j'ai du pouvoir, elle a du pouvoir. Il y a plein de personnes qui ont du pouvoir et c'est là où on doit se réunir parce qu'on puisse être plein de pouvoir, avançons ensemble, plein de pouvoir, trouvons les solutions qui sont nécessaires aujourd'hui pour guérir la Terre et pas un pouvoir contre l'autre. Malheureusement, ici, dès que quelqu'un est visible, dès que quelqu'un a du pouvoir, dès que quelqu'un porte la vision ou le message, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de bêtises.
Dola, donc toi, tu vis maintenant en France avec nous. Donc raconte-nous ce chapitre de ta vie. Comment est-ce que tu as réussi à quitter la Colombie? Tu me disais avant que la condition des indigènes, c'était pire que des chiens.
Oui.
Vous étiez plutôt maltraité.
Des citoyens de troisième catégorie.
Des citoyens de troisième catégorie. Donc comment est-ce que toi, tu as réussi à trouver une porte de sortie pour venir vivre ici en Europe?
Bah, écoute, l'éducation. L'éducation. Si on éduque, pour moi, c'est tellement important qu'on puisse donner accès à l'éducation. Parce que c'est l'ignorance qui crée de l'inconscience et les responsabilités. Donc j'ai eu la bénédiction, la vie a fait que, le parcours de vie a fait que j'ai part de la région de laquelle j'étais parlé, dans laquelle j'ai grandi, à 13 ans et demi. J'arrive à Bogota à 14 ans. Et donc j'étais aidée au départ et après je devais travailler la journée et étudier le soir. Et c'est ainsi que j'ai petit à petit j'ai réussi à avoir mon bac. Après j'ai démarré une première année à la fac. Et c'est dans cette année-là, dans la fac, il y avait des grèves. Et donc, la fac a été fermée. Et donc, il y a une copine qui me dit, écoute, bien, on m'a proposé d'aller faire un casting pour venir en France et participer avec le Tour de France, avec l'équipe de Café de Colombie. Et donc, je me suis dit, bon, je vais l'accompagner. Elle était belle, elle était grande, elle était plutôt claire. Parce qu'une autre chose, quand on est typé, on plaît. Mais si on est blond, aux yeux bleus, grand, bah, bien sûr, là, ils sont aussi dans les programmes, dans ce que le système programme, dans lequel la beauté est bien stéréotypée. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, je t'accompagne, mais bon. Mais quand j'ai fait mes études le soir, on m'a demandé d'apprendre, on devait choisir entre l'anglais et le français. Et moi, je ne voulais pas apprendre l'anglais parce que c'était la langue des colonisateurs, la langue des gringos. Donc j'ai dit, non, je veux apprendre le français parce que c'est le pays des droits de l'homme, de l'égalité, de la fraternité. Et donc, du coup, je m'inscris plutôt à apprendre le français. Et j'ai eu un prof français qui peut-être il est venu ici, il a dû souffrir aussi beaucoup en France. Mais quand il est revenu, il transmettait le français à la dure, quoi. Et j'ai une grande gratitude pour ce monsieur. Parce que grâce à lui, j'ai redoublé. J'ai habité dans les quartiers les plus anciens de Bogota, ça s'appelle la Candelaria. Et la Candelaria, il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent. Et j'ai eu la bénédiction de rencontrer deux femmes françaises qui m'ont appris le français en chantant. Donc ils m'ont transmis les pronoms, je me rappellerai toute ma vie, je les ai appris, Matassa, Mestese, Montonso. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai appris le français. Et donc j'ai fait mon redoublage et j'arrive, j'ai eu la meilleure note. Et là du coup, j'ai eu le respect de ce monsieur. Et c'est comme ça que j'ai appris le français. Quand je vais au casting, bien entendu, je ne mesurais pas 1m70, ni 1m80. Je me suis dit, écoute, je t'accompagne. Et quand je rentre, en fait, les personnes qui choisissaient, ils nous ont vus rentrer. Et par un hasard de la vie, ils ont dit qu'ils voulaient que nous deux fassions partie. On était déjà choisis, on a rempli des papiers et tout ça. Mais en fait, même avant, la vie, et, tu sais, tout est à sa place dans l'univers. C'était écrit qu'on devait venir ici, que je devais être là. Et c'est ainsi que j'arrive en France. Pendant un mois, j'ai fait le Tour de France avec en donnant des cafés, des souvenirs et des choses comme ça. Et c'est ainsi que j'arrive en France. Donc je reste. Avec ma copine, on voyage un petit peu en Europe. Mais la France nous a appelés. Et elle avait un ancien amoureux et donc elle est revenue. Donc du coup, j'étais un petit peu aidée.
Tu as quel âge quand tu arrives en France la première fois?
Là, j'ai 20 ans. J'avais 20 ans.
Qu'est-ce qui te reste de cette époque-là? Parle-moi ou parle-nous, raconte-nous quand tu arrives en France, parce que du coup, c'est peut-être
quand un... Quand j'arrive en France, en fait, tu peux imaginer quand je veux toute la culture, la beauté de ces sculptures. Je me rappelle la place de la Concorde, et le pont Alexandre II. Moi, j'ai trouvé ça magnifique, le petit palais, le grand palais. la gare, les gares, tout ça, tu vois, j'étais, waouh, c'est magnifique, j'aime ton pays, j'aime cette terre. Et aujourd'hui, j'honore l'eau, la terre, et je fais mes rituels dans ce pays que j'aime. Et j'aime la culture française, même si ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a d'amitié, il y a de l'approche, toucher, avoir, parler avec le cœur, c'est des fois un peu mal vu ici. Et donc, mais je continue à le faire. Peu importe que les gens me voient un peu bizarre, je continue à dire ma chérie, bien, mon trésor. En Colombie, on parle avec beaucoup de douceur et il y avait grand respect. Donc, le bouvaillement, ça a été un truc très dur. Parce qu'en Colombie, on ne vous voit jamais. On vous voit le président, la Cour suprême, tu vois, de justice, je pense. Mais sinon, tout le temps, on se tutoie. Donc, du coup, je sais qu'ici en France, le bouvaillement, c'est presque une règle. On doit demander permission si on peut tutoyer. Donc, apprendre tous ces codes a pris un certain temps. Et c'est vrai que par moments, je peux me vivre dans une profonde solitude. Pas parce que je ne sois pas entourée, mais c'est la solitude à niveau de, comment te dire ça, du contact du cœur. Oui, c'est surtout ça.
Quand tu me dis amérindienne, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être amérindienne aujourd'hui ?
Amérindienne, je sais que le mot, comme tu disais, est plus utilisé pour l'Amérique du Nord. Mais en fait, pour moi, être amérindienne, c'est avoir un cœur près de la terre. C'est déporter des valeurs dans lesquelles on se sent frères et sœurs de toute la nature, de tout ce qui existe. Avoir un cœur indien plutôt implique être dans cette conscience de que nous pouvons être des acteurs de paix, de que nous pouvons être des acteurs d'équilibre, de déséquilibre. Avoir un cœur indien ou être indien implique être en connexion avec tout ce qui existe. Donc, être dans ces consciences de l'interrelation avec tout ce qui existe dans les mondes visibles et invisibles. Mais avant tout, être indien ou être amérindienne, c'est avoir un cœur pur, pour moi en tout cas.
C'est beau ce que tu dis.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
J'aimerais qu'on aborde un autre aspect qui est le tourisme aujourd'hui. De plus en plus d'Occidentaux font un tourisme de ce qu'on appelle les plantes médecines. Donc, tu me parles de la Colombie, d'où tu es origine. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont faire des retraites d'ayahuasca ou de campo. Quel est ton point de vue sur ce sujet-là ?
Oui. Tout à l'heure, je t'ai dit que c'est la relation au pouvoir. C'est la première chose. Et aussi la non-conscience, l'inconscience. Car beaucoup de personnes vont dans ces quêtes comme un trip, comme vous dites, oh, on va faire un bon trip. Quoi. Et le trip peut devenir un peu compliqué si on n'est pas préparé, si on n'a pas le respect de la plante, mais aussi, parce que j'ai dans mes consultations des gens qui ont devenu presque schizophrènes après avoir pris la ayahuasca ou avoir pris certaines plantes de chez nous. Donc, il y a la responsabilité de la personne qui la propose et la responsabilité de la personne qui la prend. Quoi te dire ? Parce que la plante ouvre des canaux et si tu n'es pas prêt, peut créer beaucoup de distorsions dans ton esprit.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les Occidentaux ? Donc adresse-toi aux Occidentaux qui s'intéressent aux peuples racines, aux Amérindiens et qui ont envie d'aller vivre une expérience ou faire un trip en Amérique du Sud. Qu'est-ce que tu peux leur dire ?
Écoute, j'appelle vraiment à leur conscience et qui avons de faire cette expérience, de faire vraiment un travail d'introspection, un travail de développement personnel en eux. Il y en a aussi beaucoup de connaissances ici en Europe, de vous relier à vos racines, à vos traditions, parce que chaque peuple est relié à la terre. Et donc, c'est en étant en lien avec notre terre qu'on a la connaissance, qu'on a les informations, les messages qui sont nécessaires pour nous guérir, pour guérir la terre et les écosystèmes. Je dirais que vraiment se relier à une plante demande une grande responsabilité et qu'il serait important qu'il puisse autant venir faire ces expériences, mais en respectant vraiment la tradition. Et, parce que je vois beaucoup de personnes qui débarquent chez les Kogi, chez les Amérindiens de la Sierra, et en fait, ils s'imposent. Même il y a beaucoup de personnes qui profitent et qui profitent de ces communautés pour nourrir leur ego et pour ça crée beaucoup de déséquilibre. Et même quand on va dans des bonnes intentions, il faut vraiment être dans la conscience. Il faut voir au-delà. Au-delà des apparences, au-delà. Parce que je vois beaucoup de Français qui s'arrivent vraiment dans l'idée de vouloir aider, ils se précipitent dans l'idée de vouloir aider. Mais on n'a pas demandé de l'aide, on demande juste du respect, on demande de la reconnaissance, on demande si vous voulez vraiment aider. Et de réellement des projets qui les tient à cœur et pas qu'on arrive avec nos projections en imaginant ce qui est bon pour eux. Et ça génère énormément de déséquilibre. Et c'est pareil pour la plante. Quand les gens vont pour faire des prises de ces plantes, qui est une plante mère, c'est une mère qui nous donne la connaissance. Mais si on arrive et on n'est pas prêt, elle peut aussi nous amener dans des espaces dans lesquels on doit grandir. Je pense que vraiment aujourd'hui, il est tellement urgent que nous puissions être grands parce qu'on continue à être ici en Europe, dû à notre ego, à nous disputer comme si on serait dans la cour de récréation, comme si on n'allait pas grandir. Il est temps que nous puissions guérir. Il est temps que nous puissions guérir toutes ces mémoires qui nous empêchent de voir notre grandeur, d'ouvrir notre cœur et d'être cet être de lumière que nous sommes. Je vois beaucoup tout le travail que j'ai fait ici en Europe et en France, c'est d'apprendre à ouvrir notre cœur parce que les gens ont fermé leur cœur pour ne pas souffrir, mais on ne ferme pas le cœur juste pour une personne, pour une situation. Quand on ferme notre cœur, on le ferme pour tout. Et donc, c'est là où il y a un grand travail à accomplir, l'ouverture du cœur.
Dora, qu'est-ce que ça peut dire, ouvrir son cœur?
Ouvrir son cœur, tu vois, c'est accueillir la vie avec tout ce qu'elle nous propose. Ouvrir notre cœur, c'est accepter notre ombre et notre lumière. Ouvrir notre cœur, c'est d'être dans la tolérance, sortir de la dureté, du jugement, de la rigidité. Ouvrir notre cœur implique tout un processus de transmutation, de conscience, d'amour, d'être dans l'amour, peu importe à qui on a affaire, de rester dans l'amour. Et ça, c'est difficile. J'ai entendu que dans la Bible, Jésus disait, quand on te frappe, donne l'autre joue. Et moi, je me disais, à un moment, mais comment on peut faire ça, en fait? Et en fait, je dirais que c'est une question de conscience. Parce que quand on te frappe une fois, et tu restes là, et tu te dis, tu donnes l'autre joue, tu amènes la personne dans la conscience. Donc, c'est jusqu'à où l'autre a conscience du mal qu'il peut faire, que ce soit avec la parole, avec un regard ou avec un geste.
Ce que je retiens, c'est l'importance de l'éducation, l'importance de savoir ouvrir son cœur et l'importance d'essayer d'agir et de vivre en conscience.
En conscience, oui. Notre terre a besoin de nous dans la conscience, dans notre grandeur et dans l'amour. Pour conclure, Quand on, j'appelle à tous les êtres, à toutes les personnes qui nous entendent, à permettre que leur mental, que leur ego puisse être au service du cœur, pour que nous puissions nous installer dans une nouvelle terre.
Merci.
Merci à vous. Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.